entre les Espagne et sa sœur orientale. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est une de vos compagnies au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux astuces de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons discuter de la loi des États-Unis appelée Financial Reform Act, ou loi Obama adoptée en juillet 2010, qui contient dispositions concernant les minerais de la RDC. Ce texte, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2012, imposera un embargo sur l'or, le wolframite, la cassiterite et le coltan, qui ceci proviennent des zones en conflit à l'est de la RDC, principalement sur les minerais exploités illégalement, appelés également minerais de sang. Selon la sous-secrétaire d'État américain Victoria Holt, dernièrement visite en RDC, cette loi vise à promouvoir la paix dans l'est de la République, tout en soulignant que cette loi ne devrait pas être perçue comme une sanction, mais plutôt comme une volonté permettant que le trafic des minerais se fasse de manière transparente. Face à cette loi, certaines sociétés électroniques internationales se sont convenues pour ne plus acheter les minerais en lien avec ce conflit armé depuis le 1er avril dernier. Que pensez-vous de cette loi? Nous avons invité pour vous M. François Ndefouyer, le directeur général du Bureau d'études minières et environnementales. Il sera au téléphone, d'ailleurs il est déjà en ligne. Pierre Lamégie, Christine Toutou et Pinto Coalé réalisent cette émission. Jusqu'à est à la mise en onde. Et Marie-Chantal Alimba à la présentation.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Notre invité est déjà en ligne. Bonjour, monsieur François Ndefouyer.
Bonjour.
Comme je l'ai dit, vous êtes directeur général du Bureau d'études minières et environnementales. Nous allons d'abord présenter nos excuses auprès de nos auditeurs parce qu'il était question aujourd'hui que nous puissions débattre avec les auditeurs sur un sujet sur les droits de l'homme avec le dernier rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies. Mais nous avons eu quelques problèmes aujourd'hui. Nous avons repêché un sujet qui était déjà dans notre prévisionnel sur les minerais de l'Est de la RDC, les minerais de sang, les minerais qui sont exploités illégalement. Et cette loi aussi Obama qui a été publiée concernant ces minerais de sang, cette loi ici en RDC crée certaines inquiétudes, notamment au Nord Kivu, avec aussi la décision de certaines sociétés électroniques internationales qui se sont convenues de ne plus acheter ces minerais qui ont un lien avec les conflits armés à l'est de la RDC datés du 1er avril. Ces décisions, pour certains, ils souhaitent qu'il puisse y avoir un moratoire de 6 à 12 mois, ce qui permettrait certains opérateurs économiques de pouvoir écouler la marchandise qu'ils ont actuellement. Mais aussi, pour d'autres ONG, ils estiment qu'il serait nécessaire pouvoir appliquer déjà cette mesure à partir du 1er avril dernier, au lieu d'attendre le 1er janvier 2012. Nous sommes avec vous, M. François Ndefouyer. Vous avez appris cette loi qui a été votée, adoptée au niveau des États-Unis, promulguée par le président Obama. Que pensez-vous vous-même sur le plan économique?
Cette loi, si l'on voit simplement du point de vue économique, a à court terme des impacts négatifs sur l'économie congolaise. En ce sens que, au moins pour ce qui concerne la seule province du Nord Kivu, 30% de ses recettes provenaient du secteur minier. Et donc, créer un embargo sur ces minerais priverait la province du Nord Kivu de 30% des recettes. Mais nous disons que cette mesure américaine, vous aurez à le constater, a été suivie par une mesure du gouvernement congolais qui, en septembre, a suspendu toute exploitation minière à l'est du pays, dans les provinces du Maniema, du Sud Kivu, du Nord Kivu, pour essayer effectivement de répondre à la préoccupation américaine, c'est celle de ne pas voir les personnes en armes s'impliquer dans les activités minières. la mesure a été levée le 10 mars, et donc nous supposons que entre septembre et le mois de mars, le gouvernement congolais a pris des mesures pour éviter que les minéraux du Congo soient taxés des minéraux de sang et qu'il y ait une certaine transparence dans l'exploitation, le traitement et l'exportation des minéraux à l'est du pays.
Ce qui ressort, c'est en fait un souci de pouvoir tracer, qu'on puisse avoir un mécanisme de traçabilité de tous ces minéraux.
Tout à fait, oui, parce que les termes de la Financial Reform Act disent très clairement que les entreprises américaines doivent faire tout pour savoir si elles se procurent les minéraux à RDC et dans les pays voisins, et que si ces minéraux proviennent des groupes armés. Donc, si l'État congolais arrive à certifier que les minéraux qui sont exportés à partir de son sol ne proviennent pas des groupes armés, ces minéraux seraient achetés par les entreprises américaines qui sont concernées par la Reform Act. Même si bien évidemment, il existe d'autres débouchés. À part les États-Unis, il y a les pays européens, les pays asiatiques qui ont besoin de ces mêmes minéraux. Donc, nous disons que pour le bien de la RDC, il est évident qu'il faut qu'il y ait un processus de certification des minéraux. De la même manière qu'il y a le certificat de Kimberley pour les diamants, il faudrait qu'il y ait un certificat pour les coltans, l'or, le samite et le confiterite, de sorte que l'on puisse être certain que ces minéraux-là passent par la voie légale. Cette certification aura plusieurs avantages. D'abord, ça permettra effectivement à l'État congolais de renflouer ses caisses parce qu'il n'y aura pas de la contrebande. Donc tous les minéraux vont être exportés par la voie légale et donc l'État pourra percevoir les taxes qui lui sont dues. Mmh. Et donc, bien évidemment, ça éviterait d'alimenter les groupes armés parce que vous vous rappelez encore très récemment au mois de février qu'on a pris un avion contenant de l'or pour une valeur de 6,8 millions de dollars provenant d'un responsable de FABC au Nord Kivu. Cela montre donc que ces mesures doivent légèrement être mises en œuvre pour éviter effectivement que des personnes qui n'ont pas qualité de commerçants ou d'entreprises minières ne puissent pas se mettre dans ces trafics, et ces trafics malheureusement qui nourrissaient effectivement les groupes armés à l'Est. Et donc c'est une mesure qui, vu à long terme, elle est bonne pour l'économie congolaise, si bien évidemment le gouvernement congolais prend toutes ces mesures pour que les hommes en armes ne s'impliquent plus dans cette activité, mais aussi pour que nos minéraux soient certifiés de sorte qu'ils soient exportés dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, mais également pour que l'on sache à quoi servent exactement les richesses minières du Congo, de sorte que l'État puisse prendre sa part, les hommes d'affaires, les artisanaux travaillent dans des conditions humaines, les négociants et autres, chacun tire son compte pour la prospérité et des provinces qui sont minéraux et de la démocratie du Congo en général.
Oui, et on voudrait aussi savoir, parce que l'une des dispositions de cette loi Obama souhaite en fait que les minéraux de l'Est de la RDC puissent être conformes aux normes internationales de la vente des minéraux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes quelles sont ces normes?
Oui, en fait, en matière d'exportation des minéraux, l'idéal pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, pour qu'il en tire un maximum de profit, serait que ces minéraux soient déjà au moins transformés dans une phase première à la République démocratique du Congo, pour qu'il y ait une augmentation de la valeur ajoutée. Mais en fait, la loi ne dit pas qu'il faut nécessairement transformer. C'est un besoin congolais. Mais ce besoin congolais a des conditions. Il faudrait que les provinces concernées par cette exploitation minière puissent disposer de suffisamment d'énergie. Aujourd'hui, au Nord Kivu, on ne peut pas transformer les minéraux simplement parce que la fourniture en énergie électrique est déficiente. Il y a des projets d'exploitation de gaz méthane pour augmenter une certaine capacité. Il y a des projets de renforcement des rouvisies pour donner plus d'énergie. Cela répond aux besoins de rentabilité. On ne répond pas aux besoins des Américains. Les Américains peuvent vous acheter des minéraux bruts ou non bruts, qui vont les transformer chez eux. Ce sont les citoyens américains qui vont tirer profit des emplois dans la transformation. Et nous, les Congolais, nous avons bien évidemment intérêt à transformer les minéraux sous place, mais tout en garantissant aux entreprises qui sont dans la filière la disponibilité de l'électricité, ce qui reste encore un problème dans les provinces concernées, que ce soit le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema.
Vous restez avec nous tout au long de cette émission, M. François Ndekouye. Nous allons écouter les avis de nos auditeurs comme Modeste qui a Kalemi et Fiston de Walikale. Et je rappelle nos contacts, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315, ou carrément nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Modeste.
Ah, salut Marie, salut aussi à notre invité, à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Modeste, nous vous écoutons. Quel est votre avis au regard de cette loi Obama? Et aussi, il y a eu les membres de la société civile, par exemple du Nord Kivu, qui estiment qu'il faudrait un peu plus de temps avant l'application de cette loi, et d'autres qui estiment, par exemple les ONG, qui pensent que c'est nécessaire que cela s'applique le plus tôt possible. Quel est votre avis, Modeste?
Marie, c'est nécessaire. Et la loi est importante pour la République démocratique du Congo. Mais moi, je pense
s'il vous plaît, Modeste, s'il vous plaît, Modeste, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, de votre radio, parce qu'il y a un retour. Le temps que vous puissiez vous déplacer, nous prenons 6 sons de Walikale, et puis nous allons revenir à vous, Modeste. Essayez de vous déplacer un tout petit peu. Bonjour, Fiston.
Oui, bonjour Marie-Chantal Lunga et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi à Walikale.
Oui, vous intervenez dans une zone minière, un grand centre, c'est même un centre où il y a vraiment des gosses, si on peut appeler comme cela. Fiston, quel est votre avis?
Vraiment, c'est totalement déplorable par rapport à tout ce que monsieur le gouverneur a intervenu hier. Dans notre cœur, nous, de Walikale, on dit que Walikale, effectivement, cette loi est nécessaire, et très nécessaire d'une application valable.
Et pourquoi?
Et on aimerait à ce que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, appuie et accompagne cette loi. Vous allez voir, par exemple, ici à Walikale, il n'y a même pas de route, il n'y a même pas de l'aéroport. Vous allez voir, partout là où on est en train d'exploiter ce minerai, il y a longtemps qu'on est en train d'exploiter ces minéraux, on est en train de piller ces minéraux, le territoire reste toujours comme il était auparavant, comme il était à l'époque des colonisateurs. Et vous allez voir, tous les sites miniers sont appropriés par diverses personnes, les autorités militaires, au niveau de Goma, au niveau de Kinshasa, même au niveau local. Lorsque le président de la République a donné l'ordre de suspension on avait enregistré pas mal des officiers qui quittaient Walikale vers Goma et ailleurs. Aussitôt qu'on ouvre cette opération en cours de l'exploitation, les officiers, même les hauts gradés de militaires, commencent déjà à retourner en cours de Walikale. Donc nous estimons qu'il n'y a pas de l'ordre par rapport à cette exploitation. Vous allez voir, actuellement, on dit que le site, ou du moins le centre de négoce, est en train d'être construit, mais je vous dis, en général, jusqu'à maintenant, le centre de négoce, oui, bien sûr, on est en train de le construire, à Itébero, même. Et à Itébero, le centre de négoce a été, n'est-ce pas, créé. On se trouve que d'ici là, qu'on est en train de faire des travaux là, très rapides, qui n'est pas vraiment efficace, et je vis sans pour autant les yeux de la société civile par rapport à ça, je vous dirais que le Walikale resterait toujours dans le même site où on estime que cette loi est nécessaire pour qu'on puisse sortir toujours dans le nouvel qui entendrait toujours les personnes.
Merci, Fiston. Donc vous pensez qu'il serait nécessaire que cette loi soit appliquée, parce que vous avez constaté que effectivement avec cette exploitation illégale, il y a un manque à gagner à la caisse de l'État, et aussi vous avez constaté qu'il n'y a pas une redistribution des richesses, et ça ne permet pas de pouvoir développer votre cité, et pourtant elle regorge assez des minéraux, on exploite tous les jours des minéraux aussi. Vous pensez qu'il est grand temps que les militaires puissent quitter ces zones, parce que vous avez découvert, vous avez vu que les militaires sont retournés dans ces zones pour exploiter. Merci encore, Fiston, pour votre témoignage, mais aussi votre avis. Bonjour encore une fois, Modeste. J'espère que cette fois-là, vous vous êtes éloigné de votre poste récepteur.
Oh, salut Marie, je suis éloigné, c'est Cyril.
Alors, nous vous écoutons, vous avez déjà commencé, vous êtes à Calémie, quel est votre avis?
Je disais, Marie, c'est pour le bénéfice pour la République démocratique du Congo.
Mmh.
Et si on constate jusque-là, les minerais de l'Est sont en train d'être exploités d'une façon illégalement, soit qu'on doit appliquer immédiatement cette règle. Mais si cela n'est pas le cas, mon inquiétude aussi réside sur le fait que cette loi doit être mise en application avec, bien sûr, l'accord du gouvernement congolais. C'est pas qu'on doit imposer aux autorités congolaises de mettre en application cette loi, alors que peut-être les autorités ne jugent pas important à présent que cette loi soit mise en application.
Oui, mais alors, Modeste, il faudrait d'abord souligner que cette loi, c'est une loi qui a été prise par un pays qui est indépendant et souverain. Ils ont constaté, ils pensent qu'il serait nécessaire qu'on puisse savoir d'où viennent les matières premières pour leurs industries. Et ils estiment que utiliser les minerais de santé n'est pas une bonne chose. N'oublions pas que chaque pays est souverain.
Oui, c'est ce que je dis, Marie. Mm-hmm. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour le peuple congolais. Mais ça doit être mis en application avec l'accord du gouvernement. Parce que moi, je serais fort étonné pour qu'on impose la mise en application de cette loi alors que les autorités, parce que moi j'ai suivi le dialogue d'hier en rapport avec les paroles du gouverneur du Nord Kivu, il paraît que les autorités de notre pays ne sont pas encore d'accord de la mise en application de cette loi. Alors on doit alors attendre en 2012, comme on l'avait bien dit depuis ce début-là.
Merci beaucoup Modeste, n'oublions pas que nous avons en ligne un spécialiste dans ce domaine, il pourra donner plus d'éclaircissements concernant les liens et les lois qui puissent unir certains pays, comment ça peut s'appliquer, il pourra donner plus d'explications à ce sujet. Le temps de prendre d'abord Augustin de Boutembo. Bonjour Augustin.
Bonjour Madame Marie Chantal, bonjour la radio Capi.
Vous avez suivi Modeste et Fiston, ainsi que l'introduction par notre invité. Quelle est votre position?
Oui, ma position est bonne. Je soutiens cette loi qui venait d'être votée, mais ce que je déplore un peu, la loi est venue en retard. Pendant le blagueur, toute la population était vraiment en décadence ici, les gens mouraient comme de bêtes, on n'avait même pas pris le temps pour raisonner, apprendre ces lois, pour voter ces lois. Mais ça vient, bien sûr, ça vient un peu en retard, bon, c'est le bienvenu. Mais le problème, j'allais un peu appuyer, c'est quoi? J'allais dire à propos j'allais dire ceci.
Mm-hmm.
Ce qui se passe avec l'exploitation artisanale, en tout cas, c'est pas du tout bien parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Quand vous voyez même là où les trésors restent, c'est dans des conditions vraiment inhumaines. Il n'y a plus moyen de vivre vraiment en bonne et due forme. C'est ce que j'allais dire. Si on pourrait amener toute société de transformation des matières premières au Congo, par exemple à Katanga, on est en train d'exploiter dans de bonnes conditions parce que ça va aussi aider des intellectuels d'être aussi, de participer aussi dans cette exploitation, de travailler, de bénéficier leur salaire.
Donc pour vous, Augustin, c'est peut-être créer des structures ou des entreprises qui puissent permettre de regrouper tous ces exploitants artisanaux, et ça pourra aussi permettre de pouvoir tracer les minerais qui vont sortir du pays. C'est ça votre proposition, Augustin?
Oui, c'est ma proposition et j'allais encore proposer ceci. Notre État doit prendre les choses en main. C'est lui qui est le maître de tout. Les États-Unis ne peut pas commencer à décider à tout moment concernant notre pays. C'est nous-mêmes qui avons l'obligation de décider pour notre pays. Il faut que l'État congolais puisse appuyer l'État unis pour que les choses puissent partir dans le bon trait.
Merci Augustin pour votre intervention. À partir de Boutembo, nous allons prendre le dernier auditeur pour cette première série avant de redonner la parole à notre invité, M. François Ndekouye Ngoy. Vous êtes à Manono. Bonjour.
Bonjour Madame Marie-Chantal Lumba, bonjour la radio Capi.
Nous vous écoutons Ngoy.
Ok, moi vraiment je reçois la proposition de l'Amérique avec ma force. Mais une chose que je voudrais te demander, pour nous qui sommes au Katanga, là où nous n'avons pas connu la guerre tout à fait, est-ce que de notre côté ici, ça sera aussi fermé ou ça doit aussi continuer comme nous sommes les crésaires ici chez nous, ou ça aura encore d'autres préoccupations de faire avec?
Donc vous voulez avoir plus de précision si cette loi aussi vous concerne, vous qui êtes au Katanga? Merci Ngoy, vous aurez des précisions. Restez branchés sur Radio Capi. Nous savons qu'à Manono, c'est une radio communautaire, une radio partenaire de Radio Capi. Vous arrivez à nous suivre là-bas. Surtout, ne coupez pas. Et la fréquence à Manono, c'est 104.5.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à notre invité, M. François Ndekouye. Vous avez suivi nos auditeurs, la première série. Tout d'abord, si vous pouvez répondre à cette préoccupation de Ngoy de Manono qui voudrait avoir plus de précision. Est-ce que ces mesures frappent aussi le Katanga?
Non, d'abord, il faut qu'on éclaircisse un point Marie-Chantal, c'est que les États-Unis ont pris leur décision par rapport à leurs entreprises pour acheter ou ne pas acheter.
Oui.
Donc, ça n'implique pas le gouvernement congolais.
Mm-hmm.
C'est un marché sur lequel, un homme dit à son épouse, ne va pas acheter la nourriture à Gambela parce qu'il y a l'insécurité à Gambela.
Mm-hmm.
On n'interdit pas aux gens qui vendent à Gambela de produire les minéraux. Pour faire quelque chose ou de vendre pas. Donc, si nous devons clarifier les choses, l'arrêt de l'exploitation agonal de minéraux au Congo a été levé par le gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais qui avait décidé de l'arrêt de l'exploitation agonal à vue démocratique du Congo à partir du mois de septembre. Ce n'est pas le gouvernement américain.
Mm-hmm.
Ça devrait être très clair. Donc, Ngoy doit se rassurer parce que le gouvernement congolais n'avait pas suspendu l'exploitation agonal à Manono. Il l'a fait dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et pour les artisanaux de ces provinces, doivent se rassurer aussi parce que la mesure a été levée depuis le 10 mois.
Mmh.
Donc, par rapport à cette question, je crois que les choses sont claires. Mais je veux revenir sur les points de vue des uns des autres. D'abord, en commençant par celui de Fiston, qui est à Walikale, qui constate que depuis le 10 mars, après la levée de la mesure d'interdiction de l'activité artisanale dans la province du Nord Kivu, que les militaires reviennent encore dans les zones minières. Je crois que là, c'est un appel qui est fait encore au gouvernement parce que, effectivement, la raison pour laquelle on avait suspendu les ordres d'analyse au mois de septembre, c'était qu'il y avait une implication des hommes en armes, tant des rebelles que des personnes du RSRPC. Et nous rappelons que, à ce jour, aucune mesure n'a jamais été prise à l'encontre de ces personnes en armes parce qu'on avait indexé qu'il y avait une filière qui existait des zones de soissons minières. Dans le chef de la province du Nord Kivu, comme à Kinshasa, mais ces jours, aucune sanction n'a été donnée face à ces personnes-là. Donc, il faudrait qu'on commence par là pour dissuader ces personnes d'entrer dans les zones minières. Par rapport à Modeste, il dit qu'il faut l'accord du gouvernement congolais pour appliquer la loi. Non, j'ai répondu à cette question. Le gouvernement américain, comme vous l'avez si bien dit, Marie-Chantal, est souverain d'acheter les minéraux où il veut. Simplement, c'est nous les Congolais qui nous devons nous mettre en ordre par rapport aux besoins des clients. Les clients, c'est l'Amérique par rapport à ces entreprises. Ils disent, je ne veux pas acheter des minéraux des fois, et c'est légitime et c'est encourageable. Parce que nous ne pouvons pas tolérer que dans les téléphones cellulaires des Américains, comme de tous les citoyens du monde, soient
alimenté par des piles qui proviennent de la mort des citoyens congolais. Mmh. C'est quelque chose de louable par rapport au gouvernement américain. Donc, l'appel est fait au gouvernement congolais, effectivement, de se mettre dans les normes. Prouver que, d'abord, dans les zones artisanales, les personnes travaillent dans des conditions humaines. On doit améliorer les conditions de ces personnes-là si on n'arrive pas à un traitement industriel à ces jours. Donc, les conditions humaines doivent exister dans les zones minières pour un premier temps. De plus, on doit éviter absolument que les militaires n'accèdent dans les zones minières pour éviter effectivement que ces personnes soient riches d'un peu d'argent qu'ils détiendraient et qu'ils peuvent créer encore une sécurité à l'Est. Et vous vous rappelez que les mois derniers, et ces mois encore, beaucoup de gens continuent à mourir à l'Est, notamment à Rutshuru, où on a appris que tous les deux jours, chaque jour, il y a deux personnes qui mourent par l'effet des hommes en armes.
Mm-hmm.
Donc, on doit mettre caserner les hommes en armes et ne plus les permettre d'arriver dans ce genre de situation.
Oui.
On peut avoir des moyens qui déstabiliseraient les pays.
Oui, et que pensez-vous
par rapport à...
oui. Et que pensez-vous de cet avis, cette proposition d'Augustin concernant des structures pour les exploitants artisanaux?
Tout à fait. Je voulais en arriver effectivement au Augustin de Butembo. D'abord, qui dit que la loi est venue en retard. Je suis d'accord avec lui. En fait, tous les gouvernements américains, tant républicains que démocrates, parce que vous savez que la guerre à l'Est a commencé sous les mandats de Bill Clinton, qui était un démocrate, qui était suivi par George Bush, qui est un républicain, et tous ont eu la même politique par rapport à l'Est. Ils ont appuyé les Rwandais et les forces rebelles à l'Est. Et donc aujourd'hui, comme il dit la loi vient arriver en retard, nous dit mieux vaut tard que jamais. Nous comprenons la sensibilité de Obama qui est un Africain. Avant tout, bien évidemment, même s'il porte la nationalité américaine, il se préoccupe des problèmes de ses frères africains. Et donc, nous devons saluer quand même la volonté d'Obama de pouvoir réduire cette criminalité parce que, en coupant l'herbe sous les pieds des hommes en armes, il est évident que nous pourrons arriver à une certaine pacification. Mais comme je le dis encore une fois, le gouvernement congolais doit appuyer cette mesure parce qu'il en va de son intérêt. Bien évidemment, les artisans doivent être encadrés. Marie-Chantal, moi, je travaille dans les zones minières et j'ai été souvent dans les zones minières du Nord Kivu où vous vous rendez compte que les gens entrent dans des trous de profondeur de 10 mètres et des tunnels où, à l'intérieur du sol,
des galeries souterraines,
dans des conditions inimaginables. Avec à peine une entorse sur la tête, et les gens meurent tous les jours. Donc, il faudrait bien évidemment que l'on les aide, les artisans, avec un peu de matériel, des engins qui puissent faire, à mon avis, l'excavation, c'est-à-dire enlever la couche supérieure du sol et permettre à ce que les artisans puissent prendre les minéraux avec une facilité d'accessibilité.
Travailler dans des bonnes conditions.
C'est comme condition, qui puisse avoir des gants, qui puisse avoir des entrepôts. Bien évidemment, comme l'a dit encore Sisson, on commence aujourd'hui à construire des centres de négoce pour approcher les artisanaux des points de vente. Parce que ces pauvres citoyens travaillaient dans des conditions difficiles, mais ils avaient fait parce qu'ils devaient aller vendre leurs minéraux trop loin. Les acheteurs devaient venir de Goma, ou alors ils devaient les rencontrer sur une piste qui n'en était pas une, c'était la route Bukavu-Kisangani, où ils devaient aller en transportant les minéraux à dos d'homme pour arriver jusqu'à ce point-là, pour pouvoir les vendre aux petits avions qui venaient de Goma pour se transporter à Goma et de là les sortir au Rwanda.
Monsieur Fonton Dekouye, surtout, ne coupez pas, restez avec nous, nous allons revenir là-dessus. Le temps d'écouter Moïse de Guémena, Claude de Camina et beaucoup d'autres auditeurs qui nous ont écrit à travers pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Moïse. Moïse, vous êtes à Guémena. Je vous rappelle à nos auditeurs de Guémena, c'est sur 95.4 qui sont en train de nous suivre. Moïse, j'espère que cette fois-là, vous nous écoutez. Bonjour. Nous avons perdu Moïse. Claude, vous êtes à Camina. Bonjour. Donc, on a des problèmes de ligne entre-temps, le temps que la réalisation puisse recontacter nos auditeurs. Je rappelle notre numéro de contact, le 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa arrobase radio-kati.net, comme l'a fait Camille de Bukavu. Nous écrit ceci: dans l'est du pays, nous demandons à Obama de sursoir cette loi. Nous n'avons plus de guerre et nous vivons, de cette exploitation minière. Voilà ce que pense Camille de Bukavu. Alain de Goma, il nous écrit ceci: cet embargo tombe à pic. L'agriculture et la pêche vont au moins être prises en compte, parce qu'il faudrait transformer ces exploitants artisanaux en agriculteurs. Cela sera profitable pour le pays. C'est ce que nous écrit Alain de Goma. Fiston de Walikale, ça doit être un autre fiston, parce que nous avons eu un premier fiston de Walikale. Il nous écrit ceci: bravo à Obama, nous recommandons au gouvernement d'appuyer cette loi. Et aussi Patrick Louba de Manuno nous écrit: cette mesure est bonne, mais on a l'impression que celle-ci frappe non seulement l'est de la RDC, parce que nous avons d'autres territoires au Katanga. Ils voudraient que cette mesure puisse s'élargir sur tous les minéraux de la RDC. Il a donné même l'exemple au Katanga, où les creuseurs artisanaux vendent les minéraux sans que cela passe par les voies reconnues ou des voies qui sont légales. Il y a aussi Claude, c'est pour là, j'espère qu'il est au bout du fil. Claude, bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, avant que nous puissions lire le message de Walingo et aussi de Koutou de Ariwara, Claude, nous vous écoutons.
Merci, madame. Moi, c'est Claude, et je suis présentement à Kamina. Je voulais dire ceci, parce que moi, je viens de l'Ikasi, là où il y a aussi des creusers qui travaillent. Après leurs travaux, ils fournissent ces minéraux à des prix bien organisés. Parce que ça ne peut pas être le cas là aussi, aux provinces, au côté du nord, qui voulaient qu'on fasse de même avec l'aide du gouvernement américain, au lieu de suspendre brusquement comme ça.
N'oublions pas que cette mesure, c'est sur les entreprises minières des États-Unis. Qui ont l'habitude d'acheter les minéraux en RDC, ou bien qui veulent acheter les minéraux en RDC. Donc c'est le gouvernement des États-Unis qui a pris cette loi sur leur entreprise à eux, et non sur les opérateurs économiques de la RDC. Ça, il faudrait préciser, Claude.
Alors pourquoi est-ce que les opérateurs doivent se lamenter? Donc à part les États-Unis, il n'y a pas d'autres acheteurs qui peuvent aussi acheter nos minéraux? Et que ça soit bien organisé avec l'aide de notre gouvernement. C'était ça ma préoccupation.
Voilà, c'est ça votre préoccupation. Est-ce que ces opérateurs, au lieu de se lamenter, ne peuvent pas trouver d'autres marchés? C'est ça votre question. Merci Claude Camina pour votre intervention. Nous savons comment le marché mondial est en train d'évoluer. Nous savons aussi la grandeur des puissances, la force de certains pays. Donc c'est un peu difficile, parce qu'il y a des réalités sur le terrain, sur la bande des minerais, comment ça se passe pour le prix ainsi que les acheteurs et les revendeurs. Merci pour votre intervention. Nous prenons Moïse de Guémena. J'espère que cette fois-là, il est en ligne. Moïse, vous êtes là?
Oui, bonjour, madame, je suis en ligne.
Oui, ça a été difficile de pouvoir vous joindre. Moïse, vous avez la parole.
Oui, tant à mon humble avis, je suis vraiment tout à fait contre, n'est-ce pas, les rapports mentis. Pourquoi? Parce que la RDC est un État souverain. Et je me demande si quel est le ministre, n'est-ce pas, des mines. Ça, c'est la première préoccupation que le député pourra, n'est-ce pas, tenter de répondre à cela. Je suis tout à fait contre. Pourquoi? Parce que c'est une manière, n'est-ce pas, de freiner économiquement la RDC sur tout point. Comment expliquer qu'un État souverain comme la RDC, on puisse, n'est-ce pas, prendre une disposition que non, les minéraux ou soit les diamants, avant d'être achetés, n'est-ce pas, aux États-Unis, qu'on puisse procéder, n'est-ce pas, par des contrats, tout ça. Et il n'y a pas, n'est-ce pas, d'autres procédés qu'on puisse passer par cela. En dehors de cela, est-ce que la RDC attaque les États-Unis? Il n'y a aucun pays au monde qui peut, n'est-ce pas, acheter les minéraux, n'est-ce pas, de la RDC, au lieu d'attendre seulement les États-Unis. Moi, je suis vraiment tout à fait contre, vraiment.
C'est votre point de vue. Merci, Moïse de Guémena, pour votre intervention. Aboubakar, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Et quel est votre avis, Aboubakar?
À mon avis, moi j'ai une préoccupation ici, mais je pense un peu, c'est que moi je me demande cette loi-là. Je crois que la guerre a commencé sur ce sable, c'est depuis le 2 août. Et on a environ plus de 5 millions de morts. Jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, je me demande, cette loi est venue avec un grand retard, pourquoi? Et si cette loi est là, c'est-à-dire qu'auparavant, les Américains achetaient ces minéraux. C'est après, à un moment donné, ils ont dit que non, le minéraux qui les achetait au Congo était suivi. Et maintenant, je me dis, c'est là qui achetait avant l'adoption de cette loi. Seront-ils amnistiés ou ils seront poursuivis? Souvenez-vous, notre voisin, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'a pas un seul gisement, même pas un centimètre de gisement de diamant. Mais à un moment donné, il a été publicité ici comme parmi les grands producteurs de diamants. Et vous savez dans quelles conditions il recevait ces diamants-là, avec les guerres de Kisangani et tout ce qui s'est passé.
Oui,
exactement. On a mis quand même en fait toutes ces choses qui s'est passé, ou bien nous sommes contactés d'arrêter maintenant et acheter les minéraux qui viennent de quoi? Des zones de conflit. C'est là que m'applique ma question. Si notre invité peut m'expliquer, peut me donner plus de détails, je serais très content.
Oui, peut-être que vous avez pris l'émission en cours parce que déjà l'invité avait donné en fait l'historique hein, par rapport aux gouvernements qui se sont succédés aux États-Unis selon leurs tendances et selon leurs priorités. Il a donné son point de vue concernant cette évolution-là et pourquoi maintenant. Nous espérons quand même que vous resterez branchés sur Radio Capi. Vous appelez de Kisangani sur 94.8 en FM. Merci Aboubakar pour votre intervention.
Merci beaucoup.
Nous avons Walingo qui nous écrit à travers pa@radiocapi.net. Cette loi est une leçon du respect des lois qui est une chose rare au Congo et une injure pour les ONG plaignantes, des ONG qui se plaignent dans un État souverain et qui s'adressent à notre chef d'État souverain. Et le mieux à faire, c'est de créer des centres. C'est ce que pense Walingo, qui nous a écrit par notre adresse Internet. Je pense que c'est par un message qu'il nous a envoyé par notre numéro. Vous pouvez envoyer les messages à notre numéro que Titi va m'envoyer d'un moment à l'autre. Nous avons aussi Koutou qui nous a écrit de Ariwara. Quels sont les mobiles qui ont poussé les États-Unis à supprimer la RDC de son marché? Aussi, la RDC doit revoir ses relations avec les États-Unis. Voilà ce que pense Koutou de Ariwara. C'est son avis. Alexandre, vous êtes à Congolo. Bonjour. Alexandre?
Oui, bonjour, madame.
Alexandre, veuillez éteindre votre poste de récepteur. Vous en éloignez. Je rappelle notre numéro pour tous les auditeurs qui veulent nous envoyer des SMS. C'est le 081 416 78 94. Merci Titine Koutou pour ce rappel. Alexandre, j'espère que cette fois-là vous avez éteint votre poste récepteur. Nous vous écoutons.
Oui, madame, ma question est la suivante. Hein.
Mm-hmm.
Parce que depuis que le chef de l'État lui-même avait fait le marufuku pour l'exploitation artisanale de minéraux ici en RDC, il se fait qu'il était en conformité avec la loi Obama qui a trop frappé la population congolaise. Et maintenant, si la première fois qu'il avait fait bâclage au niveau du sud vers le Maniema pour l'exploitation, on se demande s'il avait atteint ses objectifs pour mettre fin à des groupes rebelles qui exploitaient ce minéraux, ou bien savoir si normalement on pourrait maintenant faire l'arrêt de l'exploitation dans toute la République démocratique du Congo, pour bien savoir vraiment si cela permettra à la population congolaise de vivre l'air comme a été prédit la loi Obama.
Merci beaucoup Alexandre pour votre intervention. Nous allons revenir à notre invité parce que là nous avons eu plusieurs avis comme ça il pourra réagir face à tout ce que vous venez de nous dire. N'oubliez pas nos contacts 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Monsieur François Ndekouye, je rappelle que vous êtes directeur général du bureau d'études minières et environnementales. Il y a eu plusieurs préoccupations des auditeurs, ils se posent des questions. C'est vrai que les États-Unis ont pris, ont adopté cette loi, ont promulgué cette loi. Est-ce que la RDC n'a pas d'autre marché? Pourquoi se plier à cette loi-là?
Oui, je pense que d'abord, on ne doit pas condamner les États-Unis d'avoir pris cette mesure. Mmh. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est une mesure qui renforce la transparence vis-à-vis des entreprises minières, des entreprises utilisant les produits miniers venant de la République démocratique du Congo. Ce n'est tout de même pas agréable pour quelqu'un de savoir que le téléphone qu'il tentait d'utiliser, sa pile a été produite avec la mort de quelqu'un. Ça ne sert à rien de moral. Donc, que cette moralisation des affaires voulue par Obama est une bonne chose. Ça doit se faire partout au monde. On doit interdire, d'ailleurs ça existe, il y a des lois où, dans beaucoup de pays du monde où on interdit d'acheter des produits quand on sélectionne les enfants qui ont produit cette production, si je peux répéter. Donc c'est des normes de moralisation des affaires. Et donc c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que nous estimons que la solution à nous, c'est d'aller vendre ailleurs? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous devons, nous-mêmes, en tant que Congolais, souhaiter que nos minéraux soient propres. Que nous ne puissions pas admettre que l'on tue nos propres frères pour produire une richesse quelconque. Et donc, si il y a d'autres débouchés, ça existe. Même si le marché international est un marché qui a beaucoup d'interactions. Il existe des entreprises qui produisent aujourd'hui en Chine et qui sont des entreprises américaines. Des entreprises qui sont au Singapour, qui sont des entreprises américaines, où l'Amérique a des actions majoritaires. Donc, ça peut avoir un impact négatif, même si, bien évidemment, on peut vendre dans d'autres pays, mais les États-Unis ont des entreprises qui sont éparpillées à travers le monde, et ce mot d'ordre est applicable à toutes les entreprises américaines, étant aux États-Unis comme en dehors des États-Unis. Donc, nous disons que nous disons d'autres marchés, mais nous ne devons pas de l'obligation de la transparence quand ça se concerne notre production. Elle doit être une production qui soit saine, qui soit bénéfique au Congo et qui ne puisse pas être entachée du sang de qui que ce soit. Donc ça, je crois que c'est clair par rapport aux uns aux autres. Et que c'est au gouvernement congolais, encore une fois, de prendre ces mesures. Ça n'a rien à voir avec les Américains. On n'a pas besoin de demander aux Américains de ce soit une quelconque mesure. Ce qu'on doit demander, c'est à notre gouvernement de pouvoir encadrer notre exploitation minière, que ne se compte comme les autres l'ont dit, au Katanga par exemple, on n'est pas obligé de tuer les gens pour faire l'exploitation minière. Pourquoi doit-on tuer nos frères à Walikale? Pourquoi doit-on tuer nos frères à Rutshuru, à Masisi, à Beni, à Butembo, pour besoin de richesses? Parce que les mouvements armés domine chez nous depuis des années et des années. Ce n'est pas normal, il ne faut pas que quelqu'un soit fier de ça. L'auditeur de Bukavu qui dit que nous sommes dans la paix et que les Américains doivent vous laisser tranquille, je crois qu'il n'a pas totalement raison. Dans le sud du Kivu, on sait actuellement qu'il y a encore des ZLR qui continuent à tuer et qui exploitent les minéraux de ce côté-là. Nous disons tout simplement, effectivement, qu'il faut de la transparence. C'est vrai que pendant ces mois de suspension, moi je viens de Goma il y a un mois, la vie était morose depuis septembre. On ne voyait plus les gens s'effiler. C'est vrai que c'est les grandes femmes de la population. Et que ce qu'on demande, ce n'est pas de suspendre l'activité minière, mais simplement qu'on les encadre. Pour que, qui où on sort les minéraux des capitaines, des coltans ou d'autres, jusqu'au moment où on va les exporter, que ce soit dans la transparence et que la richesse soit partagée. L'autre l'a dit qu'il n'y a pas de routes qui sont créées à Walikale. Il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a même pas des hôpitaux dignes de ce nom à Walikale. Donc, il faudrait quand même que nos richesses profitent d'abord aux Congolais. Et la meilleure manière de le faire, c'est bien évidemment que cela se passe par le circuit normal des affaires et non pas utilisé par des personnes en armes qui ne payent aucun impôt à l'État congolais, qui ne construisent aucun hôpital, aucune route, aucune infrastructure. Ce n'est pas normal.
Et comme vous l'avez si bien dit, que tout dépend du gouvernement congolais qui doit mettre en œuvre certains mécanismes pour la transparence. En tout cas, en RDC, ce ne sont pas des lois qui manquent. Nous avons même un code minier. Mais au regard de tout cela, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'enfin nous puissions mettre fin à ce minerai de sang?
Donc, en fait, la solution, elle est simple. D'abord, il faut non plus ne pas reconnaître que l'État congolais a fourni des efforts par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'existe plus de mouvements rebelles actifs à l'est du pays.
Il y a quand même des
mouvements rebelles de plus. Il y a les CNDP qui étaient là, il y a les PARECO et autres qui se sont mués en parti politique aujourd'hui. Il existe, c'est vrai, quelques hauts gradés de l'armée qui continuent à participer à cette activité dernière. Parce que quand on cite, il faut bien parfois citer les noms, Bosco Ntaganda qui aurait vendu des minéraux d'or pour 6,8 millions de dollars, c'est un haut gradé de l'armée, même s'il est issu du CNDP. Aujourd'hui, c'est un élément qui peut être contrôlé par la haute hiérarchie de l'armée congolaise, et pour preuve, je crois, on lui avait donné une élection, et il a remis, soit une partie ou une de l'argent qu'il aurait pris dans cette opération. Donc, c'est dire qu'on doit imposer l'autorité de l'État dans les zones minières.
Mais aussi des fortes sanctions.
Qui est où, qui fait quoi. Pardon?
Mais aussi des fortes sanctions, ça pourrait aussi décourager.
Tout à fait. Je l'ai dit, Marie Chantal, j'ai dit que quand on a suspendu l'activité minière au mois de septembre, on avait identifié le fait qu'il y a des personnes dans l'armée, tant au niveau des plus minières à l'Italie, à Goma, à Kinshasa, qui sont impliquées dans ce circuit. Il faut bien que le gouvernement les désigne, non, et que l'on les sanctionne. Et de cette manière-là, les autres vont se décourager de continuer à faire les mêmes chemins. Parce que tant qu'il n'y aura pas la sanction, bien évidemment, les gens se diront, écoute, ils vont parler, et rien ne va changer. Et comme Fiston l'a dit, aujourd'hui, il y a encore une résurgence des personnes en armes qui rentrent à Wadikale, si telle est la réalité, ce n'est pas une bonne chose. Je voulais aussi revenir sur une question où on dit, est-ce que les entreprises qui ont acheté les minéraux à l'époque de la guerre doivent être amnistiées ou pas? Il ne faut pas demander aux États souverains de faire ce que vous devez faire. Mais il faut savoir que les réactions des États sont liées par les intérêts. Les États-Unis n'ont pas intérêt à sanctionner leurs entreprises parce qu'ils ont amené quand même de l'argent à leur pays. Simplement, aujourd'hui, ils ont pris la mesure pour pouvoir décourager l'achat de ces minéraux quand ils proviennent des mouvements armés. C'est une bonne chose qu'on peut partir de cette base et ne pas chercher à revenir en arrière inutilement parce qu'ils ne vont pas le faire. Mais que chez nous, il y a un auditeur, je crois, des cabinets qui a demandé si effectivement on ne peut pas, venant depuis artisanaux, vendre les minéraux aux entreprises minières qui existent. C'est une possibilité qui peut être envisageable. Je pense qu'à Wadikale, d'ailleurs, il y a eu un accord entre une société qui est présente, je crois, MPC, avec une association de coopératives qui s'appelle Cominfa. Ils ont accepté de laisser une partie de leurs gisements pour qu'ils soient exploités par les artisanaux, mais qu'ils trouvent un accord pour qu'ils soient des acheteurs. Ces mesures peuvent exister et peuvent faciliter bien évidemment un encadrement des artisanaux. Parce que s'il y a une entreprise minière qui est à côté, elle peut donner des excavateurs, elle peut donner des camions bennes pour faciliter le travail des artisanaux et permettre à ce que l'exploitation minière se fasse dans des conditions acceptables.
Oui, monsieur Ndekoui, nous allons revenir à vous parce que là nous avons encore deux auditeurs et nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons revenir à vous pour une conclusion. Le temps d'écouter Kaleba de Goma, Gabriel de Kalima, mais aussi de lire les messages que nous avons reçus.
Parole aux auditeurs.
Kaleba, vous êtes à Goma. En une minute, quel est votre avis au regard des discussions que nous avons eues depuis le début de cette émission?
Bonjour d'abord madame, et bonjour à tous ceux qui me suivent en ce moment.
Mm-hmm.
Bon, moi d'abord je suis contre cette loi-là d'Obama. Pourquoi? Parce que, madame aussi à Goma, je vous rappelle que avant que le chef de l'État puisse prendre la mesure de la situation minière ici à l'est du pays, vous allez voir que c'est tout la population de Goma qui avait l'emploi. Dès que cette mesure était arrivée, tout Goma était en chômage. Ça, je vous le précise. Pendant toute la durée de cette suspension, la vie était devenue chère à Goma. Tout à fait chère. Pouvoir manger, ça devient un luxe. Je suis en train de dire ceci dans l'intention de notre gouvernement. Cette mesure est tout à fait mauvaise. parce que le gouvernement ne donne pas de l'emploi à la population congolaise. Et si le gouvernement se rend compte que la population ne fait pas faute d'emploi, c'est parce que la population s'occupe de l'exploitation minière. Donc, cette mesure pouvait être aussi douée, nous allons donner l'emploi aux Congolais. Vous savez qu'au Congo, le chômage est à 99%. Alors, si cette mesure est mise en application, les Congolais vont mourir de la faim. La population est dans une hyper-pauvreté. Hyper-pauvreté, pourquoi? Parce que le gouvernement ne donne pas de l'emploi. Donc, il faut inviter le gouvernement de pouvoir se conformer aux critères qui leur sont donnés auprès du gouvernement américain pour ajouter le fait que cette mesure de plus être appliquée au Congo.
Merci beaucoup, Kaleba. Donc, vous souhaitez que le gouvernement puisse se conformer, respecter les règles, mais vous désapprouvez cette loi. Bonjour, Gabriel. Vous êtes à Kalima.
Bonjour, ma Marie. Comme vous l'avez signifié au début, je suis Gabriel Bête de Kalima. Mm-hmm. Je salue tous les auditeurs de Kalima qui m'écoutent en ce moment.
Oui.
Ce que je peux dire tout simplement, je ne suis pas pour la loi que Obama a pu instaurer.
Mm-hmm.
C'est parce que quand vous regardez très bien, parmi les trois provinces que le chef de l'État a fait sur les activités minières, il n'y a pas la guerre. Ce qu'il va faire seulement, M. Obama, c'est pour seulement créer une rébellion et c'est pour créer une guerre. Ce que je peux demander à l'injuste seulement, l'embargo aura lieu. Et depuis que nous avons été dit qu'il y aura une centre de négoce, jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'entendre le centre de négoce, on n'a pas vu. Les clients sont en train de regarder, on ne sait pas où allons-nous, où ça retourne.
Merci Gabriel de Kalima, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous avons compris votre souci. Vous désapprouvez cette loi, mais aussi vous estimez qu'il faudrait quand même qu'on puisse restructurer certaines choses, notamment pour les exploitants artisanaux. Nous avons Massika de Beni qui nous a écrit ceci. Même si cette loi est en application, je n'arrive pas vraiment à pouvoir lire ce qu'elle nous écrit, mais j'espère que nous allons le mettre sur le site. Hein, Massika, excusez-nous, vous êtes à Beni. Il y a aussi Tuélé de Kalemi qui nous a écrit. La RDC n'a pas d'autres clients, elle n'a qu'à se plier, car dit-on, le client est roi. Voilà ce que pense Massika. Nous avons reçu beaucoup de messages de Alain Takwembe, de David Koussou, de Jean Bosco, mais nous nous excusons, nous n'avons pas beaucoup de temps, le temps de pouvoir remettre la parole à notre invité pour une conclusion. Monsieur François Ndekouye, nous vous écoutons.
Oui, en conclusion, je comprends que la plupart des auditeurs ne comprennent pas exactement quelle a été la mesure que les États-Unis ont prise.
Mm-hmm.
Les États-Unis, pour le répéter, ont pris une mesure pour imposer un devoir de réserve vis-à-vis des produits qu'ils achètent pour éviter d'encourager les guerres à l'est du pays. Et donc, les réactions des auditeurs devraient aller beaucoup plus vers le gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais prenne des mesures pour l'encadrement de l'activité minière à l'est du pays. De sorte que, dans le Méditerranée, n'accède plus aux sites miniers, et deux, que l'activité artisanale puisse être faite de façon encadrée et humaine, de trois, que les richesses de l'est puissent profiter au gouvernement congolais et à la population congolaise.
En tout cas, merci beaucoup, M. François Ndekouye. Je rappelle que vous êtes directeur général du Bureau d'études minières et environnementales. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons ainsi à la fin. Et cette émission, pour un petit rappel à nos auditeurs, était consacrée à vos avis, vous auditeurs, sur la loi Obama, une loi sur les minerais de sang, surtout pour la transparence dans les transactions de ces minerais. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui nous ont suivis en FM connectés sur www.radiocapi.net. Également merci à Pierre Elamégie, à Titoum Poutou, à Titoum Poilé qui ont réalisé cette émission, sans oublier Gisèle Fiala qui était à la mise en onde.
Allô? 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 Il ne répond pas? Allô?
Le terme de demain, nous allons revenir sur ce sujet que nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui, ce nouveau rapport de la haute commissaire des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme qui vient d'être rendu public. Dans ce rapport, il ressort que la situation des droits de l'homme en RDC ne s'est pas améliorée, demeure extrêmement préoccupante, surtout dans l'est du pays. Comment réagissez-vous face à ce rapport et selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiookapi.net. À demain et entre-temps, restez branchés sur Radio Okapi pour la suite de ces programmes.